Ayons beaucoup de contenu pour vous aujourd'hui, chers auditeurs. En plus des revues de presse internationales et nationales, je vous propose en fin d'émission une interview avec le professeur et critique de cinéma Pierre Pageaud, qui était tout récemment au Festival de Cannes, où il se rend chaque année. Pierre nous confiera ses coups de cœur et impressions générales de l'édition 2017 du Festival. Bonne émission à tous! Mon nom est Alexis Gagnon, vous écoutez l'émission Le Débrief, bienvenue dans cette édition des 14 et 15 juin. Nous allons débuter tout de suite avec la revue de presse internationale. Une fusillade près de Washington fait plusieurs blessés, dont un élu du Congrès, c'est dans le portail RFI et dans plusieurs autres médias internationaux. Une fusillade a éclaté mercredi sur un terrain de sport d'Alexandria, au sud de Washington, aux États-Unis. Les dizaines de coups de feu rapportés par les témoins ont fait 5 blessés, dont un élu républicain, le numéro 3 de la Chambre des représentants, Steve Scalise, blessé à la hanche. Le tireur a été identifié. Il s'agit d'un homme de 66 ans, originaire de l'Illinois, James Hutchinson. Il a succombé à ses blessures. Dans le fil de l'agence France Presse à présent, 196 élus démocrates déposent une plainte contre Donald Trump, le président américain. Près de 200 élus démocrates du Congrès ont assigné mercredi en justice le président Donald Trump en lui reprochant de profiter de sa fonction présidentielle pour amasser des gains financiers venus de l'étranger. Il s'agit de la deuxième plainte déposée cette semaine sur ce motif contre le président américain. L'État du Maryland et la capitale Washington avaient procédé pareillement lundi, l'accusant d'accepter des paiements de gouvernements étrangers via son empire immobilier. Le New York Times étrille le projet de loi antiterroriste du président français Emmanuel Macron. Dans un éditorial publié lundi, le quotidien américain New York Times s'en prend à la volonté de l'exécutif français d'inscrire l'état d'urgence dans le droit commun. L'absence d'un rôle pour le judiciaire qui pourrait contrôler l'exécutif est troublante, écrit notamment le New York Times. Récemment, les révélations du journal Le Monde avaient eu l'effet d'une bombe en France. Le quotidien annonçait en effet le 7 juin que le Premier ministre et le Président de la République entendaient inscrire l'état d'urgence dans le droit commun français. À travers un nouveau projet de loi antiterroriste, les principales mesures qu'implique ce régime d'exception, reconduit plusieurs fois depuis 2015, entreraient donc dans la loi ordinaire de l'État français. Donc, les réticences du New York Times à l'international à propos des intentions du gouvernement Philippe sous la direction du président français Emmanuel Macron. Le New York Times étrille le projet de loi antiterroriste de Emmanuel Macron. France toujours, de nouvelles révélations compliquent la situation de François Bayrou. François Bayrou, c'est un allié clé du nouveau président Emmanuel Macron. François Bayrou avait fondé un parti, le Modem, qui s'est allié au mouvement du président Macron. Et François Bayrou a été nommé garde des Sceaux, ce qui est l'équivalent du ministre de la Justice en France. Alors, ce ministre, François Bayrou, a de nouveaux problèmes, des problèmes de conflits d'intérêts. En France, peut-on lire sur RFI, alors que le garde des Sceaux, François Bayrou, a présenté ce mercredi en Conseil des ministres son projet de loi sur la moralisation de la vie publique, Le Canard enchaîné publie de nouvelles révélations sur les soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires européens de son parti, le Modem. Vendredi dernier, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si le Modem avait salarié des employés en les faisant passer pour des assistants parlementaires européens. Les langues se délient au Modem et il apparaît que le parti centriste de François Bayrou était géré avec une certaine désinvolture et où l'argent versé par le Parlement européen était mélangé au pot commun destiné au financement du parti, écrit le Canard enchaîné. On poursuit cette revue de presse internationale, cette fois dans les colonnes du média indépendant Mediapart, à l'adresse mediapart.fr. Pas d'accord entre Theresa May et le DUP avant la semaine prochaine, selon la BBC. C'est rapporté par l'agence Reuters. Aucun accord ne devrait être annoncé avant la semaine prochaine dans le cadre des négociations entre Theresa May et les unionistes nord-irlandais du DUP pour former une coalition de gouvernement en Grande-Bretagne, rapporte la BBC mercredi. Le service public britannique, la BBC, précise que ce retard est dû à l'incendie qui a détruit une tour d'habitation à Londres dans la nuit de mardi à mercredi, faisant plusieurs morts, et à des contraintes d'agenda des deux dirigeantes de parti. La BBC estime que ce délai dans la conclusion d'un accord de coalition pourrait avoir comme conséquence de retarder le début des discussions sur le Brexit qui devait débuter avec les négociateurs européens le 19 juin. On va se tourner vers le journal Le Monde maintenant. La coalition internationale reconnaît l'usage d'obus au phosphore à Mossoul en Irak. La coalition internationale a bien tiré des obus au phosphore blanc dans des zones habitées contrôlées par l'organisation État islamique à Mossoul en Irak et vraisemblablement à Raqqa en Syrie. Des munitions qui se dispersent dans l'air et qui, en retombant au sol, provoquent des brûlures profondes qui atteignent les muscles et les os. Alors, quand on parle de la coalition internationale, on parle des forces occidentales, notamment menées par les États-Unis en tête. Alors, cette coalition internationale a fait usage d'obus au phosphore blanc. Le phosphore blanc, c'est interdit dans le droit international. C'est considéré par plusieurs observateurs comme une arme chimique. Alors, vous trouverez cette nouvelle dans le portail du journal Le Monde. La coalition internationale reconnaît l'usage d'obus au phosphore à Mossoul, en Irak. C'est par la journaliste Majid Serouki. On reste encore un peu dans le journal Le Monde. Après les attentats, les réseaux djihadistes kurdes dans la ligne de mire de Téhéran. Les autorités iraniennes ont multiplié les arrestations tout en minimisant la portée des attaques du 7 juin, les premières revendiquées par l'organisation État islamique en Iran. C'est un article signé dans Le Monde par Louis Imbert. Les autorités iraniennes ont multiplié les opérations antiterroristes depuis les attentats du 7 juin qui ont fait 17 morts à Téhéran, les premiers qui aient revendiqué l'organisation État islamique en Iran. Cette traque s'étend largement à travers le pays, mais elle vise particulièrement les régions du nord-ouest, frontalière de l'Irak et la minorité kurde sunnite. De sources sécuritaires anonymes, 4 des 5 membres du commando de Téhéran, qui ont tous été tués dans l'attaque, étaient des Kurdes iraniens. Le nom de l'un d'eux, Saryas Sadeghi, a été publié dans la presse iranienne. Son profil sur le réseau Facebook a été supprimé. Ce recruteur présumé était en relation, en ligne, avec un combattant de l'État islamique basé en Irak ou en Syrie et des étudiants en théologie de l'université de Médine, en Arabie Saoudite. Alors, Le Monde, dans cet article, fait état des mesures prises par l'Iran pour réagir aux attentats commis à Téhéran, notamment au Parlement iranien, le 7 juin. Corée du Nord, maintenant, on revient dans le portail de RFI, Radio France Internationale, à l'adresse rfi.fr. La Corée du Nord libère un détenu américain dans le coma. La Corée du Nord vient de libérer un otage américain qu'elle détenait depuis 17 mois. Otto Warmbier, 22 ans, en très mauvais état, selon des sources familiales citées par plusieurs médias américains. L'étudiant serait dans le coma depuis plus d'un an. Le régime nord-coréen affirme qu'il souffrirait de botulisme, une maladie bactérienne grave. Otto Warmbier avait été condamné à 15 ans de travaux forcés en mars 2016. En visite touristique en Corée du Nord, il avait été accusé d'avoir voulu voler une banderole de propagande dans son hôtel. L'affaire pourrait envenimer encore davantage les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis, poursuit cet article de RFI. Des responsables nord-coréens cités par des hauts fonctionnaires américains affirment que le jeune étudiant américain était dans le coma depuis plus d'un an, un coma qui aurait été provoqué par un somnifère. L'Australie va indemniser près de 2000 migrants pour mauvais traitement. C'est encore une fois dans le portail de RFI. L'Australie accepte d'indemniser près de 2000 migrants placés en détention en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur l'île de Manus. Ces migrants menaçaient d'intenter un procès à Canberra pour mauvais traitement. C'est une action de groupe inédite et un camouflet pour le gouvernement libéral australien. De l'argent en échange du silence, résume RFI dans cet article. Le gouvernement australien et les deux sociétés privées qui l'emploient pour surveiller et administrer le centre de détention de Manus acceptent de verser environ 47 millions d'euros de compensation à 1905 migrants qui déposaient plainte. En échange, les réfugiés abandonnent toute poursuite contre l'État australien. Vous trouverez cette nouvelle dans le portail rfi.fr. Brésil maintenant, dans les pages du journal Le Monde, l'ex-gouverneur de l'État de Rio est condamné à 14 ans de prison. Sergio Cabral a été condamné pour corruption passive et blanchiment d'argent. Rarement un politicien aura, mieux que Sergio Cabral, incarné la grandeur et la décadence d'un pays, écrit le journal Le Monde dans cet article. Hier, habitué des cocktails mondains, des voyages en hélicoptère et des dîners huppés à une époque où le Brésil, riche de son pétrole, brillait sur la scène internationale, l'ancien gouverneur de l'État de Rio de Janeiro a été condamné mardi 13 juin à 14 ans et 2 mois de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent. On revient en Europe, dans le fil de l'agence Reuters. Le Parlement européen adopte les objectifs de réduction du CO2. Le Parlement européen a adopté mercredi la feuille de route établissant, état par état, l'objectif de réduction des gaz à effet de serre pour la période de 2021 à 2030, hors industrie. Une feuille de route déjà soumise au système d'échange des quotas d'émissions. Les secteurs couverts par ce règlement, comme l'agriculture, les transports, le bâtiment et les déchets, représentent quelque 60% des émissions des 28 pays membres de l'Union européenne, peut-on lire dans cet article de l'agence Reuters. Et c'est sur cette actualité européenne qu'on referme la revue de presse internationale des 14 et 15 juin. Demeurez avec nous à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien, va se continuer dans quelques instants avec la revue de presse nationale. Restez à l'écoute. Merci d'être à l'écoute du Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de votre radio francophone communautaire locale. Nous sommes dans l'édition des 14 et 15 juin et nous allons passer immédiatement aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. On débute avec deux articles qui paraissent dans le journal Le Devoir. Le premier s'intitule « Le gouvernement garde la main haute sur les nominations des agents du Parlement ». C'est signé par la correspondante du Devoir, Marie Vastel. Le gouvernement Trudeau ne changera pas le processus de nomination des chiens de garde du Parlement. Les libéraux rejettent la proposition du nouveau Parti démocratique qui aurait garanti aux partis d'opposition un droit de regard sur ces nominations. Le député propose qu'un sous-comité ait le pouvoir de bloquer de façon permanente toute nomination du gouvernement, a déploré la leader du gouvernement aux communes, Bardish Chagger, lors du débat sur la motion d'opposition du NPD. Les néo-démocrates suggéraient qu'un sous-comité formé d'un élu par parti reconnu aux communes soit créé afin d'étudier toute candidature du gouvernement fédéral à l'un des postes d'agent du Parlement. Mais le gouvernement Trudeau rétorque qu'un tel changement octroierait un droit de veto au sous-comité et priverait ainsi l'ensemble des députés de leur droit de vote sur ces nominations au poste de vérificateur général, de directeur général des élections, de directeur parlementaire du budget ou encore de commissaire à l'éthique, de commissaire au lobbying et de commissaire aux langues officielles. Donc ce sont là tous les postes d'agents du Parlement concernés. Le premier ministre Justin Trudeau a fait valoir que le gouvernement avait déjà modifié le processus des nominations fédérales en arrivant au pouvoir, un processus qui affiche désormais publiquement les offres d'emploi, lesquelles sont ouvertes à tous. Les libéraux affirment avoir ainsi procédé à 170 nominations, dont 70% de femmes, 12% de personnes issues de minorités visibles et 10% d'autochtones. Les nominations que l'on a faites étaient basées sur le mérite et témoignent de la pleine diversité de ce pays, a plaidé le premier ministre. Donc vous trouverez cet article dans le journal Le Devoir, c'est sous la plume de la journaliste Marie Vastel. Et l'autre article repéré pour vous dans le journal Le Devoir est de la journaliste Hélène Buzetti. Il s'intitule « Alcool au volant, des députés craignent le profilage racial ». La volonté du gouvernement de Justin Trudeau de serrer la vis aux conducteurs avec faculté affaiblie inquiète les députés d'arrière-ban, toute allégeance politique confondue. Plusieurs craignent que le pouvoir conféré aux policiers d'exiger aléatoirement un échantillon d'haleine pour détecter l'alcool contribue au profilage racial, dont certaines communautés font déjà les frais, écrit la journaliste du journal Le Devoir. Le projet de loi C-46, qui accompagne celui sur la légalisation de la marijuana, modifie le régime de détection de l'alcool au volant, permettant à un policier qui intercepte un véhicule pour toute infraction au code de la route ou pour une vérification de routine, d'exiger en même temps un échantillon d'haleine du conducteur. Ce policier n'aura plus besoin d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur soit intoxiqué. Des députés de la Chambre des communes craignent que les personnes racisées soient davantage ciblées. Peut-on lire dans cet article, je rappelle le titre, « Alcool au volant, des députés craignent le profilage racial ». L'info se poursuit dans cette revue de presse nationale. Nous allons aller dans le fil de la presse canadienne à présent. G20, Justin Trudeau va pousser pour une mention de l'accord de Paris dans le texte. Le Canada va pousser, selon ses propres termes, pour que le communiqué du sommet du G20 fasse mention de l'accord de Paris sur le climat, a assuré le premier ministre Justin Trudeau. Le premier ministre poursuit cet article de la presse canadienne réagissait à un texte du magazine allemand Der Spiegel, voulant qu'il ait demandé à la chancelière Angela Merkel, la chancelière allemande, d'exclure toute référence à l'accord pour éviter de vexer le président des États-Unis, Donald Trump. Trudeau qui met tout en œuvre pour faire mentir, en quelque sorte, le texte de Der Spiegel, qui l'accusait d'avoir voulu évacuer la notion du climat de la déclaration du G20. C'est dans le fil de la presse canadienne. On reste dans le fil de la presse canadienne cette fois pour parler des surdoses d'opioïdes. Le bilan s'alourdira encore. La ministre fédérale de la Santé croit que l'épidémie de décès dus aux opioïdes n'a pas atteint son point culminant et que le bilan s'alourdira encore avant que l'on puisse renverser la vapeur. Jane Philpott, la ministre de la Santé, a fait cette sombre prédiction lors de la première journée de la conférence nationale sur le leadership en santé qui se conclut cette semaine à Vancouver. La province de Colombie-Britannique a été qualifiée d'épicentre du phénomène de santé publique avec ses 935 victimes l'an dernier sur un total de presque 2500 morts au Canada. L'Agence de la santé publique du Canada révélait la semaine dernière, rappelle cet article de la presse canadienne, qu'au moins 2458 personnes étaient mortes d'une surdose liée aux opioïdes en 2016 au pays. La ministre Philpott a cependant estimé que ce bilan demeure incomplet. La toxicomanie est un phénomène complexe qui tire ses sources de multiples problèmes sociaux comme la pauvreté, l'itinérance et les traumatismes du passé, a rappelé la ministre Philpott. Pour lutter contre la toxicomanie, il faudra donc orienter la approche thérapeutique sur le patient même, a-t-elle déclaré en début de semaine. Un peu plus bas dans le fil de la presse canadienne, le remplacement des CF-18 au menu des discussions à Paris. Des responsables du gouvernement fédéral devraient s'asseoir en compagnie de représentants de divers fabricants d'avions chasseurs la semaine prochaine à Paris, alors que l'incertitude plane au-dessus du plan du gouvernement Trudeau d'acheter des Super Hornets de façon intérimaire. Les Super Hornets, ce sont des avions chasseurs. Ces rencontres sont prévues en marge du prestigieux Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris. Elles sont présentées comme les premiers pas vers l'éventuel lancement d'un appel d'offres en vue de remplacer définitivement les avions CF-18 vieillissants par 88 nouveaux avions chasseurs. La presse canadienne nous rapporte également une promesse d'Ottawa. Les militaires blessés ou malades ne seront pas laissés à eux-mêmes. Le ministre de la Défense nationale, Arjit Sajjan, a promis lundi que les militaires blessés ou malades pourront demeurer officiellement au sein des Forces armées canadiennes jusqu'à ce qu'ils soient convenablement couverts par le régime de retraite ou les prestations pour vétérans. Cet engagement fait partie de la nouvelle politique de défense du Canada, dévoilée la semaine dernière par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Plusieurs militaires blessés ou malades se sont plaints que l'armée avait coupé les liens trop vite, les laissant à eux-mêmes pendant une période de temps. Certains de ces orphelins, comme on les appelle, ont ainsi dû se débrouiller seuls pendant des mois avant de pouvoir toucher un premier chèque de pension, alors qu'ils avaient du mal à obtenir des prestations et services offerts aux anciens combattants. Dernière nouvelle aperçue pour vous dans le fil de la presse canadienne, cette fois nous venant du Québec. Les ingénieurs du Québec mettent leur grève entre parenthèses pendant 14 jours. Le syndicat des ingénieurs de l'État québécois a décidé de mettre en parenthèse la grève déclenchée le 24 mai dernier, le temps de consulter ses membres. Par voie électronique, les ingénieurs devront se prononcer sur les dernières offres du gouvernement, rejetées catégoriquement par leur comité exécutif. La parenthèse durera 2 semaines. Durant cette période, le syndicat devra décider s'il présente ou non une contre-proposition au gouvernement. Les 1400 ingénieurs de l'État québécois qui s'exposaient dans les prochains jours à une loi spéciale vont donc de leur plein gré retourner au travail, au moins temporairement, nous indique cet article de la presse canadienne. Nous allons nous transporter à présent dans les pages du journal La Presse. Montréal demeure dans le palmarès des meilleures villes cyclables. C'est sous la plume du journaliste Pierre-André Normandin. Après avoir perdu plusieurs rangs, Montréal a réussi à freiner sa chute pour demeurer dans le palmarès des meilleures villes où faire du vélo. Classée 20e au monde, la métropole du Québec peut à tout le moins se targuer d'être la seule ville en Amérique du Nord à figurer dans ce classement. La firme danoise qui met au point ce palmarès conseille les villes dans le développement de leur réseau cyclable et établit chaque année un palmarès des meilleures villes pour le vélo. Alors que Montréal se classait 8e en 2011, elle n'est plus qu'au 20e rang en 2015, rang qu'elle a réussi à conserver en 2017, écrit le journaliste Pierre-André Normandin. « Nous avons freiné la chute, maintenant on doit remonter », s'est félicité Marc-André Gadouri, élu montréalais responsable du vélo. Bien que Montréal demeure 20e cette année, l'organisme danois qui met au point ce palmarès souligne qu'elle pourrait continuer à reculer dans les prochaines années, car plusieurs autres villes améliorent actuellement rapidement leur réseau cyclable tant au Canada qu'aux États-Unis, poursuit cet article. Et on va terminer avec un article qui paraît dans le portail indépendant ricochet.media. C'est du côté francophone de ce portail d'information. Malgré la mémoire, le passé. Et c'est un article qui revient sur le 375e anniversaire de Montréal et l'instrumentalisation dont fait l'objet l'histoire et cet anniversaire de la ville de Montréal cette année. Alors, instrumentalisation de la part de toutes sortes d'intérêts. Et le chroniqueur, Marc-André Cyr, tente d'y voir clair dans le paysage médiatique qui accompagne cet important anniversaire qui va célébrer cet été la fondation de Montréal en 1642. Donc vous trouverez cet article qui est intitulé « Malgré la mémoire, le passé » dans le portail de Ricochet à l'adresse ricochet.media. C'est du côté français de ce portail indépendant. Ici se termine la revue de presse canadienne pour les 14 et 15 juin. Le débrief va vous revenir dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Rubrique francophonie pour les 14 et 15 juin. On revient sur le cas de Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. On sait que Michael Jean a reçu de vives critiques en raison de rénovations qui ont coûté cher dans sa résidence de fonction à Paris. Le Journal de Montréal revient sur cette affaire. Ottawa contredit Michael Jean. Le fédéral n'est pas sûr de vendre son appartement parisien à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est sous la plume d'Alexandre Robillard. Le gouvernement fédéral contredit Michael Jean et affirme qu'il ne s'est pas engagé à offrir un rabais d'un demi-million de dollars pour rembourser les travaux d'amélioration effectués à la résidence officielle de la secrétaire générale de la francophonie. Dans deux déclarations distinctes, Ottawa a indiqué qu'il n'existait aucune entente à ce sujet, malgré des propos en ce sens par Michael Jean. Le journaliste Alexandre Billard poursuit en ces mots. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, s'est retrouvée au centre d'une controverse mardi après la publication d'un reportage du bureau d'enquête du Journal de Montréal et de TVA Nouvelles sur les rénovations dans sa résidence parisienne. Des rénovations qui ont coûté un peu plus d'un demi-million de dollars. En réponse, Michael Jean a soutenu que l'Organisation internationale de la francophonie souhaitait acheter l'appartement du 7e arrondissement parisien et que les coûts investis dans les travaux seront déduit de la transaction finale. Une fois qu'on se sera entendu pour l'achat de l'appartement, a-t-elle déclaré, nous déduirons cette somme de la transaction. Voilà l'entente qui a été établie avec le gouvernement du Canada, a-t-elle soutenu dans un entretien accordé à la station de radio montréalaise 98.5 FM. La ministre fédérale de la francophonie, Marie-Claude Bibeault, a jugé que cette conclusion était prématurée, poursuit le journaliste. Nous ne sommes pas rendus là, a-t-elle dit aux journalistes. La ministre de la francophonie a affirmé que le gouvernement fédéral n'avait pas encore décidé s'il vendrait ou non l'ex-appartement de fonction de son ambassadeur à l'UNESCO, loué à l'Organisation internationale de la francophonie pour Michael Jean depuis 2 ans. « Nous n'en sommes pas à discuter de la vente de la maison », a déclaré la ministre. « Il y aura une discussion à faire sur le coût de la vente. » Un porte-parole du ministère canadien des Affaires mondiales, Jocelyn Sweet, a également contredit Michael Jean. « Pour le moment, a-t-il dit, aucune décision n'a été prise sur les modalités relatives à une entente concernant la mise en vente potentielle de la propriété du gouvernement du Canada à l'Organisation internationale de la francophonie. » Et le Journal de Montréal ajoute que la semaine dernière, le numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Wan, avait lui-même indiqué qu'il n'y avait aucune garantie de récupérer le coût des travaux effectués dans la résidence qu'occupe Michael Jean actuellement. On peut trouver aussi un article au sujet de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie dans le portail africain africaintelligence.fr. Michael Jean, pigeon voyageur de la francophonie. La multiplication des voyages et des missions de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie commence à faire grincer des dents, peut-on lire dans cet article. Élu pour 4 ans lors du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'est tenu en novembre 2014 à Dakar et installé dans ses fonctions de secrétaire générale depuis janvier 2015, Michael Jean n'a jamais passé plus de 2 semaines d'affilée au siège de l'organisation à Paris. Cette frénésie de missions à l'étranger de la part de la secrétaire générale commence à soulever de nombreuses critiques au sein d'une partie du personnel de l'organisation. En l'espace de 2 ans, la diplomate canado-haïtienne a voyagé autant, sinon plus, que son prédécesseur, Abdou Diouf, durant la totalité de son mandat. L'ancien président sénégalais, Abdou Diouf, est pourtant resté 11 ans à la tête de l'OIF, fait remarquer cet article. Selon un décompte établi par la Lettre du Continent, Michael Jean a effectué pas moins d'une 60aine de voyages officiels depuis 2015, soit un ratio d'environ 3 déplacements par mois. Aussitôt installée à Paris, elle s'est rendue en Guinée et de nombreux autres voyages se sont succédés. Elle a visité, et c'est une liste non exhaustive, le Cameroun, le Brésil, le Gabon, la Corée, Malte, Éthiopie, Sénégal, Djibouti, Égypte, Niger et plusieurs autres pays, mentionne cet article. En février dernier, elle a voyagé au Burkina Faso où elle a participé au FESPACO, un festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Alors la liste est longue, la liste de ses voyages est indiquée dans cet article d'AfricaIntelligence.fr. Et l'article conclut, en tête de liste des pays les plus visités arrivent la Belgique, les États-Unis, Madagascar ou encore la Suisse et le Canada. Outre l'explosion du budget lié à ces différentes tournées, le personnel de l'Organisation internationale de la francophonie s'interroge sur leur réelle utilité faite au détriment d'une vraie impulsion politique au sein de cette organisation. Vous trouverez cet article sur le portail africaintelligence.fr, le titre « Michael Jean, pigeon voyageur de la francophonie ». Et c'est sur cette actualité francophone qu'on referme la rubrique francophonie pour les 14 et 15 juin. Merci de demeurer à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale.
L'amour qui peut faire tomber une ville, le net Fred Zeck, fou d'amour, un code d'immense, fou d'amour, d'un continuum, du vacuum, flic à cause du flic des sens, ça commence quand ça finit, boosté, ça me booste la folie, bise, y'a pas d'allure comme chute, c'est pas le but de se garrocher comme un décervelé, de penser que ça va faire comme un film KCG, j'ai pas de scénario de happy ending.
Nous écoutions à l'instant Steffi Choc avec une pièce intitulée Freak d'amour. C'est Alexis Gagnon, toujours en votre compagnie dans l'émission Le Débrief. L'info se poursuit. C'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. On va débuter avec une nouvelle qui a une dimension nationale, mais qui concerne aussi directement la Colombie-Britannique, puisqu'il est question de pipeline. C'est une chronique sur laquelle j'attire votre attention. Une chronique qui est signée par Maïté Labrec-Saganache dans le journal Métro. Ça s'intitule Les marionnettes. Il faut souligner que Maïté Labrec-Saganache est de la Première Nation Crie. C'est la fille, d'ailleurs, de l'ancien député néo-démocrate Roméo Saganache. Et elle signe régulièrement une chronique dans le journal Métro. Et ça s'intitule aujourd'hui « Les marionnettes ». Et c'est une critique assez sévère du chef des Premières Nations du Canada, Perry Bellegarde. Je vous lis quelques lignes de cette chronique écrite par Maïté Labrec-Saganache dans le journal Métro. Cette semaine, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Canada, Perry Bellegarde, signait une entente avec le gouvernement Trudeau sur le dialogue de nation à nation. Fidèle à son habitude, il était tout sourire, laissant croire que le gouvernement respecte ses promesses. Manipuler les leaders autochtones à grands coups de souper d'État et d'apparitions publiques est une vieille technique qui semble très bien fonctionner, écrit la chroniqueuse. Ensuite, les médias avalent tout, comme si l'Assemblée des Premières Nations était représentative de nos nations. C'est ce que tout le monde a visiblement oublié lors de la signature de la dite entente. L'Assemblée des Premières Nations du Canada, rappelle la chroniqueur, est une organisation créée par le gouvernement fédéral et elle semble être devenue aujourd'hui un outil du gouvernement fédéral. Alors c'est une critique sévère qu'adresse Maïté Labrec-Saganache dans cette chronique. Rappelons que Maïté Labrec-Saganache est une membre de la Première Nation Cree. Elle donc vise directement Perry Bellegarde, qu'elle accuse d'évacuer le sujet des pipelines, notamment. Pas un mot sur le pipeline Trans Mountain dans les interventions publiques de Perry Bellegarde récemment. Perry Bellegarde qui continue d'apparaître tout souriant aux côtés du premier ministre et de fournir au premier ministre du capital politique. Donc c'est en substance ce que dit la chroniqueuse dans ce billet intitulé « Les marionnettes ». C'est dans le journal Métro à l'adresse journalmétro.com. Vous connaissez TFO, c'est la chaîne publique francophone de l'Ontario. Des parents franco-torontois poursuivent le gouvernement ontarien. C'est par le journaliste Étienne Fortin-Gauthier. Des parents francophones intentent une poursuite contre le gouvernement ontarien en raison de l'absence de l'école secondaire de langue française dans leur quartier. Ils s'appuient sur la Charte canadienne des droits et libertés pour cette bataille qui rappelle la cause de l'école Rose des Vents de Vancouver. Donc vous voyez, il y a une résonance avec l'actualité britanno-colombienne dans cette nouvelle qui nous arrive d'Ontario. Donc une école qui va entreprendre des poursuites judiciaires un peu à l'instar de ce qu'avait fait l'école Rose des Vents de Vancouver préalablement. Donc vous trouverez cette nouvelle dans le portail de TFO. Des parents franco-torontois poursuivent le gouvernement ontarien. On se tourne vers le portail britanno-colombien de Radio-Canada, cette fois des millions de dollars possiblement blanchis dans des casinos. 9 personnes arrêtées. 9 personnes ont été arrêtées après une enquête d'un an sur un présumé blanchiment de millions de dollars dans des casinos britanno-colombiens, ainsi que dans des maisons de jeux illégales qui seraient liées au crime organisé dans la vallée du Fraser. C'est ce qu'ont indiqué des corps policiers en Colombie-Britannique. L'enquête, lancée en mai 2016, a mis en lumière un réseau criminel qui semble être lié à des maisons de jeux illégales. Cette organisation aurait des liens à l'international, notamment en Chine. Le réseau criminel pourrait avoir facilité le blanchiment d'argent dans des casinos de la région, précisent les autorités. Une nouvelle un petit peu plus légère, toujours dans le portail de Radio-Canada, Colombie-Britannique. Un premier crâne de dinosaure découvert en Colombie-Britannique. Un chiropraticien en vacances a découvert le premier fossile de crâne de dinosaure de la Colombie-Britannique lors d'une randonnée qu'il faisait près de Tumbler Ridge, au nord-est de Prince George. Vous trouverez ça dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Et le portail Victoria News à l'adresse vicnews.com nous informe que le Bureau de la sécurité des transports du Canada rendra public très prochainement un rapport sur le naufrage meurtrier du Léviathan 2. C'est un bateau qui avait coulé au large de Tofino en octobre 2015. Le Bureau de la sécurité des transports rendra public ce rapport, donc très prochainement, nous indique le portail vicnews.com. C'est avec cette actualité qu'on complète aujourd'hui le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Restez avec nous au retour de la courte pause musicale. J'ai le plaisir de parler avec le critique de cinéma, professeur de cinéma, Pierre Pageau. Pierre Pageau est également l'auteur d'un ouvrage important sur les salles de cinéma au Québec. Pierre se rend chaque année au Festival de Cannes. Il était là il y a à peine quelques semaines pour l'édition 2017 du festival. Il nous livrera dans cet entretien ses impressions et coups de cœur de l'édition 2017. À tout de suite. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Merci d'être à l'écoute. Entrevue bien spéciale avec un collègue et ami, Pierre Pageau. Bonjour Pierre.
Bonjour Alexis.
Alors Pierre, je vais te représenter aux auditeurs. On avait eu l'occasion de s'entretenir sur les ondes de CILS auparavant, mais je vais rafraîchir la mémoire de nos fidèles auditeurs. Tu es un cinévore, un cinéphage, un passionné de cinéma. Tu as enseigné le cinéma, tu es critique de cinéma et tous les ans, tu te rends à Cannes, au grand festival de cinéma, le plus grand rendez-vous cinématographique de la planète. Et ça fait des années que tu fais le pèlerinage. Et tu es bien sûr allé à l'édition 2017. C'était d'ailleurs la 70e édition cette année. Tu en reviens tout juste il y a environ une quinzaine de jours. Et je voulais avoir, comme l'année dernière, ton avis, tes impressions sur cette édition 2017. Comment as-tu trouvé le festival cette année?
Ben écoute, avant de parler de films, il faut savoir que cette année, c'est que vraiment tout le monde, le talk of the town, tous les journalistes entre nous, c'était la sécurité. Incroyablement plus forte. Mais on sait tous ce qui s'est passé à Nice. Et en plus, durant le festival, il y a eu l'événement à Manchester.
Oui.
Alors, il faut savoir maintenant que pour entrer dans une salle, aller voir un film, écoute, il y a un premier contrôle. Ensuite, ils ont une espèce de boîte en métal. La même chose que dans les aéroports.
Oui.
Où on passe pour toutes les formes de détecteurs, de toutes les formes de métal. Puis ensuite, on a encore un autre contrôle. Puis ensuite, le moment où on arrive dans la salle, il y a un quatrième contrôle. Alors, ça a fait que cette année, c'était très, très lourd et il s'est produit quelque chose de totalement inédit. Un film en compétition officielle qui a débuté avec comme 15-18 minutes de retard, c'était le Thunderstruck de Todd Haynes. Il y a une dame là, du Canada qui s'appelle Jacqueline, je ne suis pas certain de son nom de famille, mais elle, ça fait 43 ans qu'elle va à Cannes. Elle n'a jamais vu ça. Alors, peut-être le trait le plus spécifique de 2017, qui va probablement être encore vrai en 2018, c'est la sécurité accrue parce que, évidemment, on se méfie, on a peur, on se dit Cannes est un rendez-vous mondial important, il suffirait d'un événement majeur, une bombe, et que ça fasse les manchettes. Alors ça, c'était peut-être les quelques problèmes aussi techniques qui en sont découlés. C'était un premier élément qui était assez spécifique.
C'est fou parce que moi, j'ai le souvenir des éditions auxquelles j'ai participé, auxquelles je me suis rendu. Le dispositif était à l'autre extrême, un peu lâche, un peu débraillé, un peu négligent.
Ah, oui, absolument.
Il y avait des petits bidules qui fonctionnaient à moitié. Les agents de sécurité vérifiaient le métal, mais ça fonctionnait pas vraiment. Alors là, ils sont allés à l'autre extrême.
Cette année, surtout, je peux te mentionner les premiers jours. C'était remarquable, vraiment, là. Les premiers jours, il y avait des contrôles de sacs. Ils ouvraient tes sacs et là, il ne faisait pas seulement semblant d'ouvrir ton sac.
Oui.
Écoute, là, j'ai vu des dames avec des sacs très compliqués, là.
Oui.
Et c'était élaboré parce qu'ils allaient jusqu'au fond, ils touchaient, ils vérifiaient tout, la moindre chose. Tu avais une petite barre de chocolat. Enfin, écoute, c'était vraiment, c'était cette année au début. Évidemment, à la fin, je me souviens, les deux, trois derniers jours, bon, il y avait un certain relâchement et là, le gugus dont tu parles pour détecter le métal, il semblait le passer vraiment très rapidement.
Oui.
Et là, on retrouvait peut-être un peu ce que tu as vécu, toi. Mais je peux t'assurer que pour les 3, 4, 5 premiers jours, il y avait un contrôle accru. Donc, ça, c'est un aspect du festival cette
D'accord.
année.
Alors, allons dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que le cinéma mondial se porte bien? Est-ce qu'on a eu un bon cru cette année?
Ben, écoute, le film gagnant, tu sais, The Square, qui était un film suédois.
Palme d'or à Cannes cette année, oui.
Palme d'or, ben, écoute, de Ruben Östlund. Un film, d'ailleurs, il faut dire qu'il a été ajouté à la toute fin. Hein. Tous les films de la compétition officielle étaient annoncés. Tout à coup, une semaine avant le début du festival, on apprend que, oh, on ajoute à la dernière minute un film. Ben, on l'a ajouté un bon parce que ça a été la Palme d'or. C'est une comédie. Vraiment, c'est très rare qu'il y ait une comédie qui remporte la Palme d'or. Généralement, il y a des films assez lourds qui remportent la Palme d'or.
Ouais.
Il y avait eu Tony Erdmann l'an dernier, mais il n'y a pas eu la Palme d'or. Et ça, c'est un récit vraiment très rigolo. Là. En résumé, c'est le personnage principal est un directeur d'un musée d'art contemporain qui crée en avant de son musée un espace qui s'appelle The Square. Le titre du film fait référence au fait qu'il a créé un grand espace carré dans la cour avant qui est encerclé. Si tu entres en principe à l'intérieur de ce square, tu deviens un homme plus ouvert, plus généreux, plus tolérant, etc. Sauf que dès le début du film, ce directeur se fait voler et son portable et son porte-monnaie et il devient très intolérant. Alors, tu as le rapport entre les idées généreuses que tu peux avoir théoriquement dans la vie et concrètement, quand toi, tu es confronté à un problème, ce que tu fais. Et il y a toute une série de scènes qui découlent de ça. Là, je ne vais pas résumer, te raconter tout le film. Mais encore une fois, ce que je peux dire, c'est que c'était... je ne pensais pas que ça pouvait remporter la Palme d'Or. Selon moi, ce n'était pas nécessairement le meilleur film. Mais le jury, Pedro Almodovar et son équipe, ont trouvé intéressant de récompenser un film qui va certainement un certain succès commercial,
ouais.
qui va être bien pour le Festival de Cannes, parce qu'enfin, une Palme d'Or qui a, tu sais, comme, je sais pas, ce Sommeil d'hiver de le cinéaste turc, là, c'est un film très lourd, jamais, ça, c'est de la misère d'avoir des spectateurs, même à Paris. Alors, pour une fois, je pense qu'ils ont voulu changer la donne un peu et s'assurer d'avoir un film qui pourrait rejoindre un plus grand public, je pense. Je ne sais pas comment ils ont pensé.
D'accord.
Mais c'était quand même un des films intéressants, ça faut bien dire.
Oui. Alors, faisant abstraction du palmarès, on vient d'évoquer la Palme d'Or, qui est le grand prix au-dessus de tous les autres. Faisant abstraction du palmarès, quels ont été tes coups de cœur cette année?
Mes coups de cœur. Moi, je dois dire que j'ai eu des coups de cœur beaucoup aussi dans la section Certains regards. J'avais comme mission de les voir en entier et j'ai fait plusieurs belles découvertes. On a récompensé un film russe qui s'appelle Test Nota, en tout cas, là. Et il y avait deux films bulgares aussi. C'est comme s'il y avait une renaissance du cinéma bulgare.
Ah.
Et vraiment, dans la section, il y avait aussi, je parlais tantôt de cinéma iranien. Il y avait un film qui s'appelle L'Herbe, qu'on a traduit par Un homme intègre. En fait, L'Herbe, c'est l'Ali. Et c'est incroyable. J'ai vu deux films iraniens cette année qui démontrent à quel point il y a comme une schizophrénie. Je ne sais pas comment le dire, mais en Iran, là, la corruption, le rapport à la sexualité, il y a comme des pouvoirs très forts qui s'exercent sur la population, mais la population est comme en marge de ça. Alors, donc, c'est y a comme un conflit de valeurs assez apparent. Et dans le film L'Herbe, c'était très évident aussi, le personnage principal qui fait un élevage dans son étang de poissons rouges. On sait comment les poissons rouges sont souvent importants dans des films iraniens, dans la société iranienne. Et là, il se trouve plus à un conflit de corruption, puis à la fin, lui-même, on lui demande d'être aussi corrompu que ceux qui l'ont dénoncé au point de départ. En tout cas, il y a eu des films vraiment assez intéressants. J'espère qu'on va les voir ici. Je pense qu'on devrait. C'est surtout que tu sais, Cannes, malheureusement, c'est les films en compétition officielle dont les gens parlent le plus. C'est ceux-là qui se rendent davantage dans le monde entier. Mais de temps en temps, il faut aller voir en dehors, là, à la quinzaine,
bien sûr,
à la semaine de la critique.
Et même à l'Acide, qui est une petite sélection très indépendante.
Oui, absolument.
Aussi. Il y a tout un écosystème qui vit autour de la sélection officielle et c'est ça qui est merveilleux parce qu'on a l'impression de respirer le cinéma partout sur la croisette aux alentours du palais des festivals. Il y a des salles partout qui projettent des films et
partout.
Le cinéma
ça, c'est
est vraiment
dire, hein?
C'est ça.
Et cette année, il avait développé encore plus. Hein. Il avait créé un réseau de salles qui était comme en périphérie. Il faut prendre le bus pour se rendre, la salle Rému, des choses comme ça. Et là, il y avait le festival de Cannes a décidé de diffuser davantage ses films. Bon, moi, je n'avais pas besoin de faire ça, mais quelqu'un qui a une carte cinéphile ou une carte jaune ou bleue, tu sais ce que ça veut dire dans la hiérarchie de Cannes.
Oui, il y a une
là,
gradation.
Il pouvait vraiment aller voir facilement tous les films, mais il fallait sortir, évidemment, du fameux quadrilatère avec la grande salle de Bussy, tout ça.
Oui.
Et là, ils ont diffusé avec un ensemble de petites salles autour, l'ensemble de la programmation. Évidemment, Cannes, tu sais que le soir, là, c'est toujours la grande soirée avec les stars et là, tous les gens. Tu te souviens comment le soir, on voit tous les habitants de Cannes qui arrivent habillés en tuxedo et les dames avec des belles robes parce qu'ils ont un laissez-passer de la ville de Cannes pour voir le film avec les vedettes et tout ça.
Oui.
Et ça continue. C'est toujours aussi fort.
Oui, oui,
mais il y a eu en plus, comme je te dis, une diffusion des autres films dans un réseau de petites salles qui sont périphériques au grand cœur de
Oui, oui, oui. Alors, il y a un nouveau cercle qui s'est ajouté
oui,
au cercle
que là,
concentrique.
Oui, je pense que là, peut-être que c'est une demande de la ville de Cannes. Je sais que là, il y a toujours... Tu sais, le festival de Cannes n'est pas propriétaire. Le festival de Cannes loue les salles. Donc, c'est comme il y a une entente. C'est pour ça que le soir, comme je viens de dire, les gens qui sont des résidents de la ville de Cannes peuvent demander un laissez-passer pour aller à la fameuse grande soirée d'éclat dans la grande salle. Alors donc, je crois qu'il y a eu une nouvelle forme d'entente
pour assurer
une diffusion.
Tant mieux.
Ben oui.
Et quand je dis aux auditeurs que tu es cinévore et cinéphage, c'est très vrai. Tu carbures au rythme de 4, 5, voire 6 films par jour. Ma prochaine question, cette année, tu me disais que tu as ralenti un petit peu, mais à peine.
Oui,
c'est ça. Donc, c'est un régime assez calorifique au cinéma. Dis-moi, on a évoqué tes coups de cœur. Je sais qu'on pourrait continuer pendant plusieurs minutes parce que c'est super intéressant. Est-ce que tu as remarqué des cinéastes du Canada, du Québec et du Canada dans tes séances?
Cette année, il y a deux films que je suis allé voir. C'était des courts-métrages. Il y avait un film d'animation, Tesla, Oui, exactement. C'est un film d'animation à partir de l'inventeur. Il imagine qu'il est en train de recréer le monde, mais il est confronté à des commanditaires qui l'écrasent en quelque sorte. Hein. C'est vraiment un film pas autobiographique, mais pas loin sur la lutte qu'un artiste doit mener souvent contre ceux qui le financent.
Oui.
Et puis, il y avait aussi... ça, c'est assez exceptionnel. Malheureux, ça n'a pas été assez noté ici. Mais un court-métrage, pas d'animation, mais vraiment de personnages, Jean-Marc Roy et son collègue, ça s'appelait Crème de menthe. Et il faut savoir que eux, ces deux réalisateurs-là, étaient à Cannes l'an passé. Ça, c'était à la quinzaine de réalisateurs.
D'accord.
Il y a une section court-métrage à la quinzaine. Et eux, ils étaient là l'an passé avec un film qui s'appelait Bleu tonnerre, qui était une espèce de comédie musicale.
Ce sont des Montréalais, n'est-ce pas?
Oui. Okay. Ben, c'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils ont décidé de faire un peu du cinéma en région, guillemets.
Oui.
Et ils sont établis à Chicoutimi, principalement. Et c'est là qu'ils trouvent leur comédien et leur lieu de tournage. Ils n'aiment pas qu'on dise que c'est du cinéma régional. Ça fait un peu péjoratif. Ils préfèrent qu'on dise qu'ils font du cinéma en région.
D'accord.
Mais ils sont établis les deux depuis une dizaine d'années à Chicoutimi, avec le fameux festival aussi du court-métrage de Chicoutimi,
avec lequel
ils collaborent énormément, très dynamique. Et donc, cette année, ils avaient un film Crème de menthe, parce que la fameuse bouteille de crème de menthe joue un rôle et tout ça. Et je veux juste signaler que c'est assez exceptionnel. Moi, je les ai rencontrés, je leur ai dit, vous savez, ça fait 2 années de fil que la quinzaine vous demande de venir. Je sais pas si tu sais comment fonctionne Cannes, mais Cannes est un festival qui accorde beaucoup d'importance, je dirais, aux amitiés. Tu sais, quand Cannes décide qu'il aime un réalisateur en compétition officielle, le Naomi Kawase, par exemple, la japonaise, et presque tous ses films sont là. Donc, quand ils aiment un réalisateur ou une équipe, ils le font revenir. Alors, eux, c'est la deuxième année de fil que ces deux jeunes réalisateurs de courts-métrages sont présents à la quinzaine de réalisateurs. Ça n'a pas été suffisamment mentionné, mais c'est signe qu'ils commencent, eux, en tout cas, à être connus et reconnus dans le milieu du court-métrage, même mondial, je dirais, à travers le festival de Cannes.
Alors c'est tant mieux. Et espérons que ça va se poursuivre en long métrage au cours des prochaines
éditions.
Ils ont
tous les deux. Tous les deux ont chacun un long métrage en préparation, je peux te le dire.
Formidable. Alors, on sait que Thierry Frémont, qui est le directeur artistique et programmateur en chef du festival, s'était entiché de la cinéaste québécoise Chloé Robichaud. Il l'avait programmé à quelques reprises. Là, c'est plus le cas. Est-ce que tu crois que Chloé Robichaud va revenir à Cannes?
Je crois, c'est possible. Il va certainement faire un autre film. Son film, en passé, Pays, on pensait qu'il serait. Probablement, il s'est rendu, comme j'ai su aussi, tu sais, Denis Côté, notre cinéaste, c'est un peu marginal. Oui. Je sais, on a su, tout le monde a su que son film a été considéré jusqu'à la, presque à la toute fin pour la semaine de la critique, je crois. Bon, mais ils ont beaucoup de demandes. Tu sais, la semaine de la critique, il y a seulement 6 films. Il faut que les gens sachent.
Oui.
En fait, à Cannes, il n'y a pas beaucoup de films. Il faut que les gens sachent, ça n'a rien à voir comme avec Toronto, où il y a 1 million de films à voir. À Cannes, dans le fond, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de films. On pourrait, à la limite, presque tous les voir.
Il y a énormément de films au marché du film, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans les sélections...
Alors, au marché du film.
Oui.
Oh oui, parce qu'écoute, la compétition officielle avait 20, Certains Regards 18, la quinzaine, il y en a moins que 10, 6. Tu sais, au total, là, quelqu'un pourrait presque... Mais ce serait la folie. Ouais.
Mais à la décharge de Denis Côté, on peut dire qu'il a été adopté par le festival suisse là, de Locarno et qu'il a connu du succès à Berlin également.
Et Rotterdam aussi. Hein.
Voilà.
Rotterdam, qui est un festival, je ne suis jamais allé, mais qui est un festival qui défend beaucoup le cinéma d'auteur pointu, si je puis dire.
Oui.
Donc, le cinéma d'auteur a des œuvres vraiment très personnelles et originales. Denis aussi a été adopté par Rotterdam et Locarno. Donc, j'ai aucune inquiétude.
Oui.
Denis a soumis son film à Cannes, je l'ai su. Il a été presque retenu.
Oui.
Mais bon, inquiète-toi pas, là, ça pourrait être Venise. Ça pourrait être Rotterdam, le
Cap-Rouge,
Berlin, mais il va... Non, on a d'autres films québécois qui s'en viennent. Certainement que le Xavier Dolan va être à Toronto aussi, parce que Dolan vise le marché américain. Tu sais qu'il a tourné un film entièrement en anglais, avec des comédiens, des comédiennes américaines.
Oui.
Alors donc, j'ai l'impression que le film va être à Toronto, parce que Toronto, c'est souvent l'amorce de ce qui peut être retenu pour même jusqu'aux Oscars. Alors donc... Xavier Dolan ne pouvait. Le film n'était pas terminé, je sais. J'avais parlé au caméraman André Turpin. Il m'a dit, Pierre, avril, début mai, on va être encore en train de terminer des derniers plans. Là, Xavier est assez exigeant.
Oui.
Et donc, c'est impossible.
Oui, c'est assez connu, ça.
Oui. C'est ce qu'il veut, ce jeune homme.
Pierre.
Xavier, c'est très bien.
Oui.
Alors, ça va venir. On va le voir, le Dolan. Ça s'en vient, le Dolan.
Ça promet.
Et le Denis Villeneuve aussi. Denis Villeneuve sur Blade Runner.
Oui.
Ça aussi, ça sera
Ça, c'est très attendu, le Blade Runner revu par Denis Villeneuve. Il y a plusieurs rendez-vous festivaliers à l'horizon, bien sûr. Locarno, Toronto, Venise. On aura, j'espère, l'occasion de se reparler peut-être à la rentrée, Pierre. Tu me donnes envie de...
Moi, je vais certainement aller à Toronto. Jamais tu veux qu'on se reparle. Une fois que j'aurai fait le circuit Toronto, je pourrais te faire un bilan. Il y aura certainement, je rappelle, le Dolan et le Denis Villeneuve qui seront à Toronto et probablement bien d'autres choses aussi.
OK. Vive le cinéma, vive la cinéphilie. Pierre Pageot, je mentionne également à nos auditeurs que tu es l'auteur d'un ouvrage important sur les salles de cinéma au Québec, ouvrage d'histoire sur les salles de cinéma au Québec, et que tu enseignes, as longtemps enseigné au Cégep le cinéma, tu es critique de cinéma. Ce sera un plaisir de se reparler à l'occasion du TIFF, comme on l'appelle, le Festival de Toronto.
Oui.
En attendant, je te souhaite un excellent été et à très bientôt.
Toi aussi, Victoria et Alexis.
Merci, Pierre. Terminus pour l'émission Le Débrief. C'est ici que s'arrête l'édition des 14 et 15 juin. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne de CILS FM 107,9. Et encore merci à Pierre Pageot pour cette entrevue à thématique cinématographique. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Vous écoutez CILS FM Grand Victoria au 107.9. au bout du bout de la route transcanadienne, au bout du bout de votre cadran FM et au bout du bout des émissions alternatives.
L'album Desjardins, un album hommage réunissant quelques-unes des plus belles chansons de Richard Desjardins, interprétées par 14 artistes de grand talent, dont Fred Fortin, Les Sœurs Boulay, Safia Nolin, Bernard Adamus et plusieurs autres. En vente partout dès le 28 avril.
Reflections in the sun, they imitate waking dreams in everyone. In the silence of the night, through a beam of candlelight, mirrors from the past for things to
through these images, these happy little CILSFM, la voix de votre communauté.
L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fisch. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, pour lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage! Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Merci à Nicolas Fisch pour la réalisation technique. Aujourd'hui, l'Odyssée du rythme vous emmène dans l'ère du rock'n'roll, la naissance.